en Ile-de-France.
Écoutez IDFM
sur 98FM. IDFM,
toujours plus proche de vous.
Tous, heureuse de vous retrouver sur Animaux et Nature chaque premier samedi de mois à 12h. Je continue mon périple dans la sphère vintage et la fripe. Parce que cette mode est cheap, chic, tendance, bonne pour la planète, bonne pour votre budget. Et si elle est végane, elle est bonne pour les animaux. Alors, pour toutes ces raisons, habillez-vous en seconde main avec seulement une pièce, un vêtement, une paire de chaussures, un bijou, ou alors à 100%, as you want. Aujourd'hui, je vous fais découvrir trois jeunes femmes passionnées, courageuses, déterminées, éco-sensibles. Bref, des femmes libres. Jessica pour Julia Paris. Alors Julia, ça s'écrit J-U-L-Y-A. Spécialisée dans le vide dressing avec son ami Yvan de Ego Vintage. Karine pour Fripe Paris. Alors Karine, elle se décarcasse pour vous trouver les meilleures adresses en dressant son agenda hebdomadaire d'événements concernant les friperies, les pop-up stores, les marchés, les vide-greniers, les brocantes, les braderies, etc. Valentine pour Bertille Vintage Vegan qui, elle, remue ciel et terre pour trouver des pépites vintage sans aucune matière animale. C'est possible de s'habiller tendance et qualité sans fourrure, ni laine, ni soie, ni angora, ni cuir, pas de daim, pas d'ivoire. Et elle est généreuse, Valentine, parce qu'elle reverse 1 euro à chacune de ses ventes effectuées à une association nommée Groingroin. Bref, un partenariat qui lui tient très chaud au cœur avec ce refuge Groingroin. On marque une petite pause. Donc, ma première invitée est Jessica pour Julia Paris, spécialisée dans le vide dressing de seconde main avec de la fripe, un petit peu de luxe, mais jamais de fourrure. Elle est très itinérante et active. Eh bien oui, hein, il faut du courage pour amener, soulever, accrocher des portants entiers de vêtements sur les lieux qu'elle choisit de louer pour ses ventes. Je la retrouve pour la première fois à Paris, rue du Grand Prieuré, avec son ami Yvan de Ego Vintage. Let's go! Donc, Julia Paris. Alors, depuis quand ça existe?
Alors, Julia Paris, ça existe depuis 1 an.
Tout neuf?
Oui, c'est tout neuf. Du coup, j'ai toujours été passionnée par le monde du vêtement.
Ouais.
Donc, du coup, ça fait 1 an que je me suis dit, allez hop, je me lance vraiment à organiser. Avant, j'étais plutôt exposante, donc dans les dressings, donc Violette Sauvage, The Gros Marché, dans le vintage.
Oui.
Et du coup, je me suis mis aussi à créer mes propres dressings, du coup.
Alors, Julia Paris, pourquoi Julia Paris? Parce que c'est ton prénom?
Ah non, c'est pas du tout mon prénom. Et en fait, moi, j'adore Julia Roberts. Pour moi, franchement, en termes de mode, c'est une de mes idoles, du coup.
D'accord.
Donc, c'est d'où le prénom Julia Paris.
Ouais, alors, c'est plutôt les 80s.
Oui, plutôt.
Parce que Julia Roberts, c'était les 80s hein, dans ses films. Enfin, elle continue, évidemment, mais là où elle s'est fait connaître, hein, Pretty Woman, c'est les 80s. Pourquoi avoir créé ce projet?
Alors moi j'ai tenu du coup à créer ce projet parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne.
Ouais.
Donc je pense que faire ce métier-là, faut le faire par passion parce que ça reste quand même quelque chose de fatigant. Il y a beaucoup de manutention, il y a beaucoup de travail derrière. En fait les gens ils pensent qu'on vient comme ça juste poser les vêtements, qu'on trouve des pièces à droite à gauche et que c'est simple, alors que pas du tout. Il y a vraiment un vrai travail même par rapport au prix. Il y a beaucoup de gens qui pensent que des fois le vintage, la seconde main, c'est super cher, mais on chine les vêtements, on les lave, on les étiquette, on les repasse. Donc tout ça, vraiment, c'est un travail.
Et on inclut aussi dans le travail la recherche. C'est pas la même chose. Quand nous, on va trouver chiné dans des bacs, tout ça, bon, ben, c'est nous, donc il y a moins de temps. Et puis on lave nous-mêmes, mais là, vous faites le travail en amont.
C'est ça. En fait, vous arrivez, vous avez toutes, on va dire, on appelle ça les bonbons, on va dire. Vous avez des bonbons, en fait, qui sont directement sur les portants. Ça vous évite, en fait, de trier les trous, les taches. Là, vraiment, vous choisissez des vêtements nickel.
D'accord. Donc, vous êtes professionnel. Tous les deux, vous êtes professionnel. Excuse-moi, je n'ai pas présenté ton ami. Comment s'appelle-t-il?
Alors, du coup, moi, en partenariat sur les vide-dressing dans la gestion de l'homme, je suis en partenariat avec Ego Vintage, qui est pareil. Tous les deux, on est en auto-entrepreneur. On est auto-entrepreneur du coup dans le vêtement, donc on est tous les deux déclarés, on est professionnels.
D'accord. Donc vous êtes professionnel et vous avez donc un numéro de...
Oui, on a un numéro de ciré, donc vous pouvez nous retrouver sur ce...
Vous payez des impôts et
on paye des impôts, donc oui, donc on n'est pas... Nous, on n'a pas de bac à 1 euro comme dans certaines friperies.
Oui. Donc, du coup, mais en fait, quand même, ça vous donne quand même des possibilités d'aller fouiner dans des endroits où le public lambda ne peut pas aller.
Hein. Bah, c'est vrai que quand vous avez un numéro de ciré, ça vous permet d'acheter en grosse quantité des ballots, de pouvoir négocier les prix. Donc c'est pour ça aussi des fois qu'on s'associe entre friperies pour pouvoir peser un peu plus sur le prix du coup chez les fournisseurs.
D'accord. Et alors donc qui fait quoi de vous deux?
Alors moi je vais m'occuper de tout ce qui est merchandising. Donc ça va être tout ce qui est présenter les vêtements par couleur. Je choisis beaucoup les pièces femmes, enfants, parce qu'on fait aussi de l'enfant. Et voilà, et tout ce qui va être un peu gestion des réseaux sociaux, ça va être moi aussi. Ouais. Donc après Ego Vintage, ça va être tout ce qui va être logistique, donc préparation de la boutique, donc monter les portants, tout ce qui va être prix et tout ce qui va être mail, parce que on n'y pense pas, mais il y a beaucoup de paperasse aussi derrière. Donc les contrats, mails, les assurances, tout ça en fait pour les locations de boutique, il y a les visites aussi. Les visites, donc tout ça en fait, ça demande beaucoup beaucoup de travail avant un événement.
Et oui, parce qu'en fait vous êtes sur Paris aujourd'hui, c'est la première fois que vous êtes sur Paris, mais vous êtes dans d'autres endroits et donc vous louez quand même des parcelles de des... Vous faites pas dans la rue comme dans la rue dans le vide dressing ou vide grenier?
Ah non, en fait à chaque fois on loue des boutiques donc sur la France entière. Donc là on a fait Lille, Amiens qui arrive bientôt, on a fait Rouen plusieurs fois.
Tout ça depuis un an.
Et tout ça depuis un an. En fait on aime bouger, on aime rencontrer du monde. Et en fait,
vous êtes itinérant.
Voilà, ça nous permet d'avoir aussi une plus grande panel de clients.
Mais par contre vous êtes quand même de la Normandie.
On est de la Normandie. D'ailleurs d'ici un mois on ouvre en fait une petite boutique, une petite friperie au quartier libre de Rouen. Donc en fait c'est un tiers-lieu qui est assez atypique.
Où ça?
Au quartier libre de Rouen. Donc en fait c'est l'ancienne ou la future gare SNCF.
D'accord. Et vous venez de quel milieu professionnel?
Alors moi j'ai un parcours assez atypique. Alors j'ai commencé dans le vêtement à 18 ans, donc les premiers boulots comme tout le monde.
Ah quand même?
Oui, donc j'ai été responsable de magasin très rapidement au bout d'un an. Ensuite je suis devenue végane, donc j'ai totalement changé de secteur d'activité. J'ai repris des études pour aller dans l'alimentaire, donc j'ai travaillé dans tout ce qui est naturalia, bio c'est bon, qui était en rapport avec mes valeurs du coup.
Bien sûr.
Et ensuite j'ai commencé à ouvrir des commerces. Donc j'ai ouvert il y a à peu près 5 ans un café-bar-restaurant vegan.
Où ça?
Dans le 20e.
Donc, ah bon? Bah, faut donner le nom.
En fait ça s'appelait le Sierra Café, que j'ai dû fermer à la suite de la séparation.
C'est pas à cause du Covid?
Non, c'est pas à cause du Covid.
Pour raison personnelle.
C'est ça. Ensuite du coup j'ai rencontré mon nouveau conjoint en Normandie, et en fait j'ai toujours eu cet amour du vêtement, de la seconde main, de chiné, et du coup je me suis lancée, je me suis dit bah là c'est le moment ou jamais, on est jeune donc faut se lancer.
J'ai vu sur les réseaux que certaines régions produisent beaucoup de ventes de seconde main, particulièrement dans le nord de la France, mais ça se démocratise aussi, mais dans le sud je trouve que ça a du mal. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
Alors moi, qui est en contact avec quand même beaucoup de friperies, c'est vrai que dans le sud, il y a moins d'événements que dans le nord, hein, tout simplement. En Ile-de-France, on avait tout le temps, toutes les semaines, tous les week-ends. Et à Lille, c'est productif, je pense. Lille, Belgique, moins. Oui. Mais par contre, c'est vrai que dans le sud de la France, on a beaucoup de collègues friperies qui remontent en fait à Paris pour participer à des événements. Ouais. Il y a Marseille qui commence lancer. Mais c'est vrai que par exemple Montpellier, je pense que ça manque. Toulouse, il n'y a pas beaucoup d'événements. Ouais. Nice, Cannes, ça manque. Ouais. C'est vrai que dans le sud, ça serait bien quand même d'organiser un peu plus d'événements.
Voilà, d'accord. Alors, j'ai noté que tu étais végane, donc je te poserai une question sur le véganisme après par rapport aux vêtements. Donc, vous vendez bien dans votre région, aussi ici. Est-ce que vous avez l'envie d'aller vous expatrier, enfin, pour vendre dans d'autres pays, la Belgique, l'Italie, ou je sais pas?
Alors, le projet qu'on a, c'est de s'expatrier, mais au Portugal. Alors c'est un projet qu'on est en train de réfléchir et de travailler parce que du coup bah c'est pareil, il faut visiter des lieux. Donc là en octobre on part au Portugal pendant un mois justement pour faire la tournée des villes où on pourrait s'installer, voir des Sanco aussi qui pourraient être partenaires avec nous.
Pas pour y vivre, juste pour être itinérante et pour vendre. Vous reviendrez toujours en France quand même faire des petits événements.
Oui, on revient toujours en France, mais c'est vrai que là on a envie de s'exporter un peu plus. La Belgique ça se fait déjà. Donc le Portugal, on voit moins, et l'Espagne, apparemment, c'est aussi demandeur de la seconde main.
Bah, l'Espagne, ça marche bien quand même. Hein. En Portugal, je ne sais pas, mais en Espagne, j'ai vu ça, que ça marchait bien. Donc aujourd'hui, c'est votre première vente à Paris. Ça a dû être fatigant quand même, hein. Les portants, tout ça, c'est pas vous qui portez, c'est votre conjoint.
On porte tous les deux. Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un entrepôt. Donc en fait, vu qu'on fait des ventes chaque semaine, alors nos vêtements, ils sont étiquetés, repassés, lavés. Donc en fait, là, c'est plus de l'installation des vêtements qui sont mis sur les portants. Et en amont, on a déjà fait tout le travail.
Sur Paris, vous vendez aussi dans d'autres propositions?
Alors du coup, sur Paris, la plupart du temps, on participe par exemple à The Gros Marché.
The Gros Marché. On passe le bonjour à Daisy.
Oui. Daisy, si t'es là, du jeu à Paris, te dire un petit coucou. On a fait Le Point Éphémère aussi, qui organise souvent des vide dressing de temps en temps. Tutti Frutti. Donc il y a quand même beaucoup d'organisateurs de oui sur Paris.
Vraiment depuis sur Covid, Paris, je crois, non?
Et sur Lille, nous on a un petit coup de cœur, c'est Eugène Agency. Du coup, c'est une responsable de communication qui organise des événements éco-responsables et mode en fait depuis à peu près une dizaine d'années. Et franchement, l'organisatrice, elle est juste super.
Ah bah, si je vais à Lille, j'irai la voir.
D'ailleurs, elle organise un événement, pas Paris encore, c'est en projet, mais elle organise beaucoup sur Lille et beaucoup dans les Sanco, et il y en a un bientôt, justement.
Alors justement, aujourd'hui, sur Julia Paris, mais à Paris, dans la rue du Grand Prioré.
Oui, voilà, c'est Grand Prioré dans le 11e.
Voilà. Vous ne proposez que vos trouvailles, vos pépites. Est-ce que dans d'autres endroits, vous proposez aussi à d'autres vendeuses?
Alors, en fonction des boutiques, de la superficie et du lieu, des fois, on accepte du coup des créateurs, du coup des particuliers. Là, en fait, notre but, c'était vraiment de brader un maximum de stock pour attaquer tout ce qui est printemps, été. Donc là, en fait, c'est notre fin de stock de l'hiver. Donc du coup, pour renouveler notre stock, là, vraiment, on n'expose que nous.
Votre projet, donc, hein, votre petit bébé, n'inclut pas forcément du vintage, hein?
Ah non, pas forcément du vintage. Du coup, sur nos vide dressing, vous allez pouvoir trouver donc de la seconde main, du dressing et du vintage. Donc, on a un peu de fast fashion parce que malgré tout, c'est encore demandé.
Et c'est que de la seconde. C'est aussi de la seconde main.
C'est aussi de la seconde main. Après, on a quelques vêtements neufs. Par exemple, là, en Chine, on a réussi à racheter un lot d'une boutique qui a fermé.
C'est bien ça. Ça, c'est super.
Voilà, on a réussi à racheter un lot d'une boutique qui a fermé. Donc là, on a par exemple tous les pantalons diesel qui sont neufs, étiquetés, donc qui sont quand même en valeur neuve entre 100 et 150 euros. Nous, on les propose à 15 euros. Ça reste vraiment accessible à toute bourse.
Mais si, par exemple, vous trouvez une pépite qui a un trou, est-ce que vous allez faire de l'upcycling ou vous la proposez comme ça, même si elle est lavée, repassée
Alors, du coup, nous, on propose des vêtements qui peuvent être upcyclés parce que du coup, on a des créatrices qu'on connaît. Donc là, c'est notre réseau personnel qui récupère du coup les vêtements avec un petit trou, qui vont faire, par exemple, des blazers mélangés avec du streetwear. Mais sinon, la plupart du temps, en fait, on modifie nous-mêmes les pièces. Donc là, on a un projet d'une collection capsule avec des canevas. Donc c'est de la déco, ouais. C'est des canvas, donc c'est des cadres anciens à base de laine qui vont être upcyclés sur des vestes en jean. Du coup, sur une ancienne marque qui s'appelle Cookers, qui a été créée il y a 50 ans.
Vous avez drôlement beaucoup d'idées. C'est vous qui trouvez les petites idées ou vous les faites à deux?
On essaie de diversifier du coup notre activité et surtout de se démarquer un peu de la concurrence parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup de monde maintenant dans le seconde main, dans la fripe. Et c'est vrai qu'avoir ce petit truc-là en plus, c'est sympa.
Votre fourchette de prix?
Alors nous, on commence à partir de 1 euro. Et maximum 50 euros. Et après, sur quelques pièces luxe, par exemple, on va avoir des sacs Dior, des blazers Burberry, on est max à 150 euros.
Des sacs Dior? Bah, vous m'appelez, hein, quand vous en avez.
On a vu quelques pièces sur le site Imparfaite, donc qui est quand même connu pour pour des pièces un peu quali. Ouais. Et donc, du coup, oui, sur Imparfait, on vend beaucoup de Dior.
Mais il n'y a pas que chez Imparfait qu'il y a des prix quali, hein. Enfin, chez vous aussi, chez The Gros Marché, aussi chez Cruchon. Hein, voilà, la qualité, c'est pas forcément un vêtement de luxe. Ça,
là, par exemple, là, aujourd'hui, on a beaucoup de cravates Christian Dior qu'on fait à 8 euros.
Super ça. Donc, seconde main, free, vintage, fast fashion, un peu de luxe, de l'upcycling. Quel type de client avez-vous ? Ou cliente ? Vous avez les deux ?
Alors, on a les deux. Alors, le type de cliente, ça peut être la jeune de 10 ans qui peut trouver un ancien baggy qui était à la mode des années 90 comme une mamie de 86, on en a déjà eu, qui cherchait en fait tout ce qui est un peu manteau en laine. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, le vintage, en termes de qualité, on peut pas comparer par rapport à la fast fashion.
Ça, c'est sûr.
C'est des matières nobles qui tiennent dans le temps. La preuve, elles sont toujours...
Sont toujours là.
C'est ça, elles sont toujours là.
Non pas à la poubelle.
Voilà, contrairement à la fast fashion.
Et à l'hyper fast fashion. Maintenant, il y a l'hyper fast fashion. Je ne nommerai pas la marque que je n'aime pas du tout. Je le dis, mais je la nommerai pas. Vous êtes également chineuse pour vous ?
Ah oui, moi je chine énormément. Le seul problème, c'est qu'en chinant tout le temps, les placards ils débordent. C'est un peu
dur. Vous vendez ?
C'est dur quand on aime vraiment des vêtements. On sait qu'on retrouvera plus, surtout dans le vintage. C'est dur.
Vous gardez les meilleurs et puis vous faites des petits cadeaux.
C'est ce que je fais. C'est ce que je fais pour
copines, aux parents.
C'est ce que je fais. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, même les jeunes, au collège, en primaire, ils s'habillent beaucoup en vintage et en seconde main. Donc c'est ça qui est...
C'est bon pour la planète, c'est bon pour le porte-monnaie aussi. Quelle époque vous préférez, vous ?
Moi, je suis plutôt dans les années...
80.
On a dit 80, Pretty Woman.
Entre 80 et 2000.
Ah ouais ?
Oui.
Y2K ?
Ça dépend des styles, mais j'aime bien aussi. Oui. Moi, je pense que tout vêtement peut être porté, mais bien tout sûr. Dépend de comment on l'a sorti.
Bien sûr, on peut mélanger les styles, être contemporain et puis vieux. Donc, vous vendez accessoires, vêtements, objets de déco aussi ou...
Alors, du coup, on vend des canevas. Donc, c'est le seul objet des décos qu'on va vendre. Donc là, actuellement, du coup, on a un book stock à peu près de 100 canevas. Donc, la moitié va être upcyclée pour nos vestes en jean, du coup. Et le reste, du coup, sera en exposition dans nos futures boutiques.
Des chaussures ?
On vend aussi des chaussures. La plupart du temps, ça va être des chaussures cuir pour femmes. L'homme, on a encore un peu du mal à trouver, mais c'est vrai que la femme, on a plus d'accessoires, chaussures, chapeaux, sacs.
Avant-dernière question, vous m'avez dit que vous étiez végane, donc le véganisme, vous essayez de l'appliquer sur tout, évidemment. Est-ce que vous vendez, par exemple, de la fourrure ?
De la fourrure, non. Après, on a quelques articles en cuir, mais de la fourrure, non, on n'en vend pas.
Ok, on est d'accord. Et dernière question, vous êtes évidemment sur les réseaux sociaux, Julia-Paris, c'est ça, avec Facebook et Instagram,
c'est ça.
Et TikTok
aussi. Et on est aussi sur TikTok. Là, c'est vrai qu'en faisant des ventes chaque semaine, nous, on ne peut pas avoir... du coup, une pièce, on fait des drops, mais en fait, nous, on ne peut pas avoir une plateforme où on vend nos vêtements parce qu'en fait, chaque semaine, on vend. On a tout le temps des événements. Là, cette semaine, on est à Paris. La semaine prochaine, du coup, on fait une vente privée dans un...
À Paris aussi ?
Ah non. Du coup, dans la Normandie. Ah. Après, on ouvre notre boutique. Après, on fait un événement upcycling, en fait, dans un centre commercial à Rouen. En parallèle de ça, on a l'ouverture de notre boutique. Après, on va à Lille. Donc, on bouge vraiment.
Vous bougez beaucoup.
On bouge beaucoup.
Vous savez que vous pouvez aussi trouver des vêtements dans les pays étrangers, hein, qui sont vachement...
Là, en fait, on est en train de voir pour avoir un contact en Pologne. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui vont en Allemagne, en Belgique et en Italie. Et en fait, on aimerait voir aussi le marché polonais qui sera peut-être aussi moins cher que l'Italie.
Et puis en plus, ils ont des modes différentes avec des jolis pulls particuliers avec de la broderie et tout. Moi, j'adore. Et puis voilà, la dernière question, c'est sur Instagram, vous faites pas des ventes flash hein ?
Alors, pas pour le moment. On y pense parce que du coup, avec notre boutique qui va ouvrir, on aura peut-être le temps du coup là de faire des ventes, donc des lives le soir. Je pense qu'on le fera.
Et des bijoux, j'ai oublié de vous demander, des bijoux vous faites ?
On a des bijoux, on les ramène en fonction des boutiques, en fonction aussi de l'effectif. Parce que là, par exemple, aujourd'hui on est deux, mais des fois on va être 8, on va être 10, donc ça dépend.
Si on vous aide quand même alors ?
Ah oui, des fois on n'a pas le choix de recruter.
Ah oui, d'accord. Des grandes... Et des copines ou des gens, vous êtes obligé de payer ?
Ah non, on est obligé de payer des fois. Après, on a des copines du coup qui viennent représenter leur friperie, donc ça nous permet de partager des boutiques. Donc, comme sur l'événement des Docks 76, donc à Rouen, au Centre, on sera à peu près 3 friperies à partager la boutique, mais c'est vrai qu'on n'a pas le choix.
Prochaine venue à Paris, dites-moi.
sans réflexion, parce que comme je vous disais, là on a énormément d'événements, donc je pense que ça va être plutôt pour le mois d'octobre, parce qu'on on a la boutique et au moins une dizaine d'événements qui sont prévus déjà jusqu'en octobre. Donc pour l'instant,
de toute façon, il faut vous suivre sur les réseaux sociaux, comme ça on est au courant des ventes.
De toute façon, nous chaque mois en fait on a l'agenda qu'on met à jour du coup pour nous suivre, savoir où on est, si on est à Lille, si on est à Paris, si on est au Havre ou à Rouen. Mais la plupart du temps, de toute façon, on va garder la base du magasin sur Rouen, donc il y aura toujours la friperie qui sera ouverte, et de temps en temps, bah, vu qu'on est deux voire plusieurs, du coup une personne ira gérer l'événement en extérieur.
Eh bien super, merci beaucoup.
Break down the walls to connect, inspire, eh. Up in all your high place, liars. Time is ticking for the empire, eh. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people, they stumble and they fumble and then we about to riot. They woke up, the lions, eh.
À l'écoute des programmes d'IDFM et Animaux et Nature jusqu'à 13h. Je me trouve actuellement dans un parc parisien et je vous présente ma seconde invitée, Karine. pour Fripp Paris. Elle propose un agenda hebdomadaire d'événements, pop-up store, vide-grenier, vide-dressing, dépôt-vente, brocante, marché, etc. en ce qui concerne la seconde main et le vintage. Alors, est-ce que c'est sur Paris? Quel type de pièces et pour qui? On voit ça avec elle. Alors, bonjour Karine.
Bonjour Isabelle.
Alors, depuis quand tu as ouvert ton agenda?
Alors, j'ai ouvert l'agenda sur Instagram en juin 2019.
D'accord. Ton parcours personnel, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu fais en plus?
Alors, moi, en parallèle, j'étais fonctionnaire, j'étais secrétaire au cabinet du ministre de l'Intérieur.
Ouh là là!
C'est la raison, oui, c'est la raison pour laquelle je suis venue, entre autres, m'installer à Paris. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai voulu connaître toutes les adresses et que du coup, ouais, j'ai lancé Fripp Paris.
Alors, pourquoi tu t'es lancée là-dedans? Bah, t'aurais pu te lancer dans autre chose. Est-ce que c'est à partir de 2019, que t'as, à partir de la crise du Covid, que t'as commencé à cogiter ou après?
Alors, c'était bien avant. Je chinais déjà dans le placard de mes cousines quand j'étais petite. Ouais. Et j'ai découvert la seconde main, vraiment l'achat, bien plus tard, quand j'avais une vingtaine d'années, ouais, où je voulais renouveler ma garde-robe, mais avec un budget qui était raisonnable.
Raisonnable, oui. Et tu aimes quoi particulièrement dans la mode, toi personnellement, dans la mode de seconde main? Quelle est la décennie qui te plaît le plus?
Moi, j'aime beaucoup les années 70, ouais, vraiment beaucoup.
Et pourquoi?
Pour les coupes.
Pour les coupes.
Oui. Le style un peu girl boss, un peu un style androgyne, j'aime beaucoup.
Ouais, oui, oui. Allez, androgyne, j'aurais dit aussi les années 80.
Oui, oui, je déborde un peu selon les...
Et tu t'habilles comme ça aussi, donc.
Oui.
En seconde main.
C'est ça, exactement.
Alors, sur Instagram, tu as noté communauté. Et moi, je suis sur Instagram, évidemment, on a chacune une page. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
Alors, j'ai mis communauté parce qu'en fait, il faut donc se désigner, ouais, sur Instagram. Et j'ai mis communauté parce que je me positionne pas en tant qu'experte de la seconde main, puisque je suis une fille qui découvre aussi en même temps que tout le monde. Par contre, je suis la bonne copine qui a toutes les adresses.
D'accord.
Voilà.
Ben, ça doit être quand même un travail énorme d'aller choper. Je sais pas, j'ai vu sur ta page qu'il y a, tu avais noté, quand on clique sur le lien, 124 lieux. Il y en a peut-être plus depuis le début que tu as fouiné, mais c'est quand même énorme.
Oui, alors j'ai fini mon Excel cette semaine. Donc j'en suis à plus de 300 adresses de fripe et dépôt-vente à Paris. Donc je les mettrai régulièrement, enfin, oui, au fur et à mesure. Et ça demande du travail, oui, toutes les semaines, quelques heures pour l'agenda, parce qu'il faut regarder plusieurs sites internet.
Oui, pour voir si ça marche toujours.
Ça, oui, bien sûr.
Fermé ou pas?
Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est plutôt pour les fripes et les boutiques. Mais pour les événements, du coup, il y en a sur Instagram, il y en a sur Facebook, il y en a sur Brocabrac. Et donc, oui, moi, je réunis la totalité.
La
en
totalité.
Fait. Ouais.
Donc, on voit ça sur. Donc, si on est par exemple sur Instagram ou sur Facebook, c'est la même adresse, hein, Fripp Paris. On clique sur le lien et là, on a. C'est répertorié comment?
Alors, je répertorie par arrondissement, pour que ce soit plus simple de se déplacer, de prévoir son week-end. Et je le fais aussi par jour de la semaine. Pour qu'on puisse, voilà, si le jeudi, par exemple demain, en sortant du boulot, on a envie de savoir ce qui est ouvert et ce qui est dispo comme événement, eh bien, on les a.
Mais alors, donc, tu te balades aussi pour aller, pour trouver les adresses, pour les heures, pour vérifier les heures, si c'est bien ouvert ou pas, les boutiques, et pour vérifier qu'elles ne sont pas fermées. Comment tu fais pour faire ton réassort, entre guillemets?
Alors les boutiques, maintenant que j'ai fini l'Excel, j'avais fait quelques arrondissements, mais c'était en 2019. Donc après le Covid, il a fallu tout refaire. Il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé. Donc là, je l'ai finalisé. J'ai fait quelques arrondissements déjà pour vérifier un peu. Et je vais les faire une par une. Donc,
Alors tiens, une question à laquelle j'avais pas pensé à te poser et que je l'ai tout de suite là. Est-ce qu'il y a des événements que tu préfères? Des choses que tu... Qu'est-ce que tu aimes bien faire toi quand tu vas chiner? Est-ce que tu préfères faire les brocantes ou est-ce que tu préfères faire les vides dressing ou les vides greniers ou les ventes de charité ou, qu'est-ce que tu préfères faire?
J'aime beaucoup les brocantes et vides greniers. J'aime beaucoup aller chez Emmaüs aussi, parce que du coup on y trouve autant de la déco que des vêtements, voilà, de tout, vraiment de tout, des livres aussi, c'est super. Et sinon plutôt les fripes. Je suis un peu moins dépouvante,
ouais,
à part Cherche Minip que j'adore.
Ah, mais je connaissais pas celui-là.
Cherche Minip, c'est une super adresse pour commencer, en fait, initier quelqu'un à la seconde main, notamment quelqu'un qui achète des marques d'habitude. Cherche Pinip, c'est parfait parce que c'est un budget qui est tout à fait raisonnable, qui reste quand même des marques d'actualité et des vêtements assez contemporains.
Oui, oui, oui.
Et ils ont plusieurs boutiques.
Ah, ça, je connaissais pas. Donc, j'ai vu, hein, je l'ai vu, hein, de noter quand on clique sur Instagram sur ton lien. Je l'ai trouvé. Il y en avait un dans le 15e ou le 16e, je crois, non?
Oui, en fait, ils sont à la frontière du 15e et du 6e. Ils sont rue du Cherche-Midi.
Alors, c'est pas un dépôt-vente.
Cherche-Minip ?
Oui, c'est pas un dépôt-vente.
Cherche-Minip, c'est un
dépôt. C'est un dépôt-vente. Mais alors, souvent, les dépôts-ventes, c'est un peu cher, mais c'est pas, c'est, les prix sont raisonnables quand même.
Oui, alors ce qu'ils ont bien fait, du coup, c'est qu'il y a une boutique pour les femmes, une boutique luxe à part, une boutique homme et une boutique enfant. Oui. Ce qui permet, dans la boutique femme, on arrive à trouver des choses à 20 euros. Voilà,
tout oui, pas dans le luxe, hein, parce que le luxe, le problème, c'est que ça monte tout de suite très très fort. Et ça, c'est pas assez démocratique pour moi. Personnellement, je le dis. Voilà. Mais alors, dis donc, tu es une des seules, hein, parce que c'est pour ça que j'étais curieuse de venir faire un portrait de toi et de ce que tu fais, parce que j'en ai pas vu beaucoup des personnes qui font des agendas comme ça. Ou alors, ça commence.
Certaines pages se sont ouvertes, oui, en 2019-2020, un peu après.
Ouais. Alors, comment tu fais pour protéger tes adresses pour qu'on, parce que sinon, on va te les piquer, quoi.
Et ben, ce que je fais, c'est surtout pour l'Excel de Fripe qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps pour répertorier les 300 adresses, les horaires, les jours d'ouverture, la totalité des infos. Donc ça, je le mets petit à petit. Après, pour les événements, c'est de la promotion. Donc plus on est à les promouvoir, mieux c'est finalement.
Oui. Est-ce que tu vas toi-même faire des événements? Ça t'a pas donné des idées de ton, puisque tu fais ça, là, de faire un peu autre chose ou de prendre un chemin latéral pour vendre des choses?
Eh ben, j'ai été fonctionnaire et j'ai démissionné pour faire une reconversion professionnelle, donc en tant que chef de projet digital. Donc j'ai toute une partie communication.
Ah oui, ça doit t'aider.
Voilà, complètement. Oui. Du coup, ça m'aide. Je le mets en pratique avec Fripe Paris.
Oui.
Donc je remercie tous ceux qui m'aident à chaque fois que je change un peu mes visuels, à me dire si c'était mieux ou pas mieux, parce que ça m'aide beaucoup.
T'as quand même pas mal de followers, hein.
J'ai vu ça sur Instagram.
Oui, parce que ta page, elle est assez nouvelle, il n'y a pas beaucoup de parutions en fait.
Oui, non, j'ai pas beaucoup de contenu en publication, je suis en train de travailler, de voir comment je vais l'amener et qu'est-ce que je peux apporter finalement de mon expérience sur la seconde main, en dehors des adresses et de l'agenda.
Et donc toi-même, tu vends un petit peu sur Vinted aussi, hein?
Oui, ben je vends ce que j'achète et que je ne mets plus, parce que je fais partie de la génération qui consomme beaucoup.
Voilà, donc par contre, ça ne concerne pas que les vêtements, hein, les pièces que tu mets en valeur dans ton agenda, ou les boutiques, etc., les événements, ça concerne tout, du mobilier, de la déco, des vêtements pour hommes, femmes, enfants, de tout.
Oui, alors pour l'instant, je reste axée sur les vêtements. Mais pour moi, le vintage, c'est vraiment un univers, la seconde main en général d'ailleurs. Donc, ça va être les vieux livres, ça va être la déco, ça va être tout ce qui peut être ustensiles de cuisine. En fait, ça va être un peu toutes les bonnes adresses où on peut trouver de la seconde main, du coup.
Et donc, quand tu fais les visites, ben, tu te sers toi-même et tu trouves des choses sympas quand tu vas faire un répertoire, entre guillemets. Ben, tu te dis, tiens, parce que j'ai vu que tu avais mis des petites radios, là, j'ai trouvé ça trop mignon. Tu les avais chinées, celles-là?
Alors, oui, j'en ai eu chinées à un moment donné, oui. Mon ex-copain faisait ça.
Ouais. Qu'est-ce que je voulais te demander donc? Est-ce que tu as donc des projets que tu veux bien nous dévoiler, ou alors tu veux les garder pour toi?
Alors, les projets, ben, ce serait en fait amener l'expérience, tout ce que m'a apporté la seconde main dans mon rapport à la mode, mais dans mon rapport aux objets aussi, et pouvoir du coup créer du contenu là-dessus, le présenter aux gens et surtout parler aux jeunes, parce que j'ai eu 20 ans et j'ai commandé sur AliExpress à l'époque parce que je cherchais. AliExpress, c'est le papa de Shein, on va dire, donc catastrophique, mais moi je voulais du pas cher et de l'original, et en fait pour avoir du pas cher, de l'original avec la qualité en plus, Vous trouverez ça nulle part ailleurs qu'en seconde main.
Qu'en seconde main et en vintage, c'est-à-dire plus de 20 ans. Hein, oui, parce que tu fais de la seconde main, mais ça peut être du Y2K du, et pas forcément ou du 2010. Mais alors vintage, c'est vraiment avant 2000. Hein. C'est les périodes que tu préfères, puisque tu m'as dit que tu aimais bien les années 70.
Hein. Oui. Après, ça peut être une façon d'initier les gens à la seconde main.
Oui,
de dire, vous pouvez vous prendre des basiques, par exemple... si vous voulez pas être trop dans le vintage, parce que quand on s'habille vintage, les gens ont tendance à dire ça te va super bien, mais moi j'oserais pas. Ah, voilà, c'est ça.
Alors ça fait vieux jeu, mais il faut mélanger les périodes. Et quelle est la raison vraiment purement philosophique entre guillemets pour lesquelles tu t'es lancé là-dessus? Est-ce que c'est d'un point de vue économique? Est-ce que c'est un point de vue écologique ou autre ou plus mode?
Alors, c'est...
J'ai l'impression que ça te tient à cœur quand même d'initier les gens, donc pour quelle raison ?
Oui, c'est quelque chose qui est important parce que si je l'avais su avant, j'aurais moins dépensé d'argent dans des marques et des fringues que finalement j'ai fini par jeter parce que c'est même plus, on peut même pas le revendre, ça c'est pas une bonne qualité. Et puis ça m'a donné accès à, pour moi la mode, s'habiller, c'est vraiment s'approprier du coup les vêtements, des vêtements qui ont une histoire en plus si on est dans le vintage et trouver son style. Je trouve que c'est quelque chose qui est important.
Oui.
Et qui nous aide à avoir confiance en nous et à nous présenter et finalement à assumer qui on est. Et grâce à la seconde main, chacun peut se construire son style.
Et qui ne ressemblera à personne d'autre. Même si une pièce a été portée, par exemple un jean vintage, je sais pas moi, un Levi's des années 70, il peut être porté de mille manières possibles.
Oui. Et il peut se transmettre. Moi, je porte aujourd'hui le jean de ma tante quand elle avait 18 ans.
Ah,
qu'elle avait.
Super, mais bon.
Donc en plus.
Il n'a pas vieilli, hein.
Mais il n'a pas vieilli du tout.
C'est super. Oui, j'ai vu sur ta page que tu avais aussi le sac de ta maman.
Oui, j'ai récupéré pas mal d'affaires. En fait, la première chine qu'on peut faire, si on n'est pas à l'aise avec la seconde main, c'est directement dans la famille, les amis. Tout le monde est ravi de vous donner des habits, ouais.
Oui. Tout le monde fait ça. Hein. Bon, et ben merci.
Avec plaisir.
Vous êtes bien sur EDFM et ses programmes. C'est l'heure d'Animaux et Nature jusqu'à 13h. Ma troisième invitée est Valentine pour Bertille Vintage Vegan. Et elle est un peu spéciale, Valentine, dans le monde de la seconde main et du vintage, car elle est vegan. Son mode de vie est vegan et reflète sa mode également, puisqu'elle ne chine, sélectionne et vend uniquement des pièces sans matière animale. Alors, qu'est-ce que la mode vegan ? Pourquoi a-t-elle opté pour cette philosophie ? Est-ce une question d'éthique, d'écologie, de santé ? Comment sélectionne-t-elle des pièces en matière d'origine animale et où ? Comment peut-on retrouver sa boutique ? Eh bien, retrouvons-la sur The Gros Marché du Ground Control, près de la gare de Lyon. J'en profite pour dire bonjour à Daisy, la boss de The Gros Marché, qui, en passant, fait peau neuve en permanence maintenant sur The Ground Control, avec des vêtements de seconde main, vintage, upcyclés, des accessoires, des illustrateurs, des créateurs, des objets de décoration et j'en passe. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Alors, on se retrouve justement non pas au Ground Control, ça ce sera pour une autre fois, mais au Food Society avec The Gros Marché. L'occasion de découvrir en même temps de la cuisine maison et des rendez-vous vintage avec ta boutique, Bertille Vintage Vegan, je me suis pas trompée. Voilà. Alors depuis quand tu fais ça ?
Alors j'ai commencé il y a presque 2 ans. Juste avant ça...
Avant le Covid ou...
C'était un tout petit peu après le Covid. Je me suis lancée en juin 2021 et depuis un an pile, je fais ça à temps plein.
À temps plein, voilà. Donc tu travailles toute seule ?
Oui, je travaille toute seule, ouais.
Et ton parcours personnel ?
Alors,
qu'est-ce que t'as fait avant ? T'étais dans la mode ou...
Pas du tout, en fait, moi j'ai commencé par des études de droit, ensuite j'ai enchaîné avec des études de gestion de projets culturels. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans la communication et dans le secteur culturel. Et donc, j'ai quitté mon travail il y a 1 an.
Mais ça a dû t'aider quand même d'être dans la communication comme ça.
Oui, tout à fait, ouais. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de continuer de toute façon. Donc c'est un peu la... Voilà, la...
Et tu t'es toujours habillée en seconde main ou ça a été le déclic comme ça? Pourquoi t'as eu le déclic?
Alors, j'ai commencé à m'habiller en seconde main assez jeune. Et après, en vintage plus précisément, c'était à partir du lycée. Donc il y a une... petite quinzaine d'années. J'ai commencé à aller en friperie à Paris avec mes copines et j'ai pris goût et après j'ai jamais arrêté.
Et est-ce que tu t'habillais avec des vêtements de ta maman ou de tes tantes ou...
Alors oui, quand je m'habillais en seconde main plus jeune, j'ai récupéré des vêtements de ma tante et effectivement, mais c'était pas du vrai vintage. Après c'était voilà.
Et depuis si peu de temps, tu fais ça. Et pourquoi t'as tout de suite trouvé ce nom-là? D'où il vient?
Alors, le nom Bertie, en fait, ça m'est venu de ma sœur, tout simplement. Son deuxième nom, c'est Bertie. Et en fait, Bertie, c'était aussi, au Moyen-Âge, dans le Jura, la patronne des fileuses. Donc des fileuses de laine. Et c'était une époque où le vêtement était très long à faire et très précieux parce que c'était très délicat et ça prenait beaucoup de temps, donc on les gardait longtemps. Et je voulais que ça fasse écho donc au vintage, des vêtements qui durent dans le temps et qu'on garde. Voilà.
Donc tu fais que du vintage. Alors tu es sur internet, tu as ta page, tu es aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et tu vends en direct aussi, dis-nous à peu près dans quoi, par exemple ici?
Alors exactement, donc j'ai un site internet, une page Instagram, après je vends sur des marketplaces, donc Imparfait, Vinted, un petit peu Crushon, et à l'occasion de pop-up comme ici. Donc je fais beaucoup de pop-up avec The Gros Marché, j'ai fait le salon de vintage à Bordeaux en février.
T'as pas fait le salon de Paris?
Pas encore. Et sinon, j'ai pas encore de pop-up physique dans des boutiques, mais je fais des événements qui sont le week-end comme ça.
Et tu fais des vide-greniers?
Oui, oui, c'est là où je trouve principalement mes pièces, ouais.
Mais toi, est-ce que tu vends?
Non, pas spécialement encore.
Alors, où tu trouves justement tes pièces? Un peu partout?
Donc je les trouve principalement en brocante, en vide-grenier, à Paris et dans le Perche, parce que ma maman habite maintenant dans le Perche. Et...
C'est où, dis-nous, Rab?
Donc là, elle habite dans le Loir-et-Cher, plus exactement. Et il y a beaucoup de vide-maison, vide-grenier.
Et tu trouves des choses là?
Je trouve pas mal de choses. Je trouve pas forcément les mêmes pièces qu'à Paris, mais ça me permet de trouver des pièces vraiment improbables, par exemple des robes années 60 que j'aurais pas forcément trouvé à Paris, donc ça c'est chouette.
Moi j'aurais pensé le contraire, tu vois. Quel ordre de prix à peu près tu as?
Je commence assez bas, j'ai des pièces à 15-20 euros et ma pièce la plus chère est à 150 euros.
Et c'est quoi par exemple?
La pièce la plus chère que j'ai, c'est un kimono Kenzo en gros. Et sinon après la moyenne c'est vraiment 30-35 euros.
Quel style de client tu as? Est-ce que tu as des femmes, des hommes?
Les clientes principales, donc ça va être des femmes, plutôt entre 25 à 45, je dirais. Plutôt parisiennes et femmes. Après, donc, ce que je propose, c'est plutôt des coupes féminines. Mais c'est déjà arrivé que des hommes m'achètent des pièces, donc ça me fait très plaisir.
Parce que maintenant, hein, tout le monde le sait, les auditeurs, les auditrices commencent à le savoir, dans le vintage et la seconde main, maintenant c'est unisexe. Hein. Les hommes s'habillent avec des chemises, les femmes piquent les chemises de leurs mecs ou leurs vestes, oversize, voilà. Donc là, par exemple, at The Fruit Society, tu as combien de vêtements là?
Là, j'ai avec moi 150 pièces. Et c'est à peu près ce que j'ai sur chaque marché, donc ça fait 3 à 4 portants.
Mais par contre, sur Internet, t'as beaucoup plus, sur ta page, t'as beaucoup plus de...
Alors sur mon site, j'en ai un petit peu moins, parce que j'ai pas encore tout mis en ligne. Mais avec le temps, je pense qu'on arrivera à peu près à ça, ouais.
Alors, tu proposes quoi? Des vêtements, les accessoires, la décoration ou uniquement des...
Alors, principalement, c'est des vêtements. Là, récemment, j'ai mis en ligne quelques accessoires. Mais
par exemple quoi?
J'ai quelques boucles d'oreilles clips années 80, des petits colliers, des choses comme ça, mais c'est vraiment le principal, ça reste les vêtements. Donc c'est des vêtements, comme je disais, avec des coupes plutôt féminines, des années 60 aux années 90.
Pas de 2000?
Pas de 2000, c'est pas forcément dans mes goûts et j'aurais peur de faire des faux pas, on va dire.
Et toi, quelle période tu préfères?
Moi, ma période préférée, c'est les années 70.
60? Bah, à 60 ou 70?
plutôt 70, ouais.
Oui, parce que 60, c'est quand même très, très, très serré. Et 70, c'est vraiment, allez, on se lâche. Mais il ne faut pas oublier que la mini-jupe, c'est des années 60, hein, quand même. Hein.
C'est vrai. Après, 70, ouais, moi, j'aime bien. Enfin, ce que j'aime bien, c'est la fluidité, les coupes, les motifs surtout, et toutes ces couleurs, ouais.
Est-ce que tu fais donc uniquement du vintage, de la seconde main vintage? Pas de fast fashion, pas d'hyper fast fashion?
Non, pas du tout. C'est que du vintage, donc années 60 jusqu'aux années 90. Et, ouais.
Quelle est la pièce que tu as, quelle est la pièce, toi, que tu préfères porter?
J'aime bien ouais, les vestes. Bah, comme aujourd'hui, là, j'ai une petite veste en tweed que j'ai achetée du concert, justement. Sinon, j'ai plus de mal à trouver pantalon et tout, donc j'aime bien absolument les petites robes, ouais, robes à fleurs, juste comme ça.
Et les clientes, elles préfèrent quoi?
Moi, les pièces que je vais vendre le plus, ça va être les petites blouses en coton.
Ouais, mais j'adore. Ah ouais, évidemment.
Voilà,
toutes les chemises.
C'est ça, les chemises, tout ce qu'il y a un peu dedans.
Tellement féminin.
Voilà. Et puis aussi, j'aime beaucoup aussi les motifs floraux et ça marche aussi bien. Tout ce qui est robes et jupes à fleurs, en général, ça part bien à cette période de l'année. Donc, voilà.
Quelle est la plus belle pièce que tu as trouvée ou les plus belles pièces que tu as trouvées et où tu les as trouvées?
Alors, il y a une pièce qui m'a marquée que j'avais trouvée l'année dernière en vide-grenier à Paris. C'était une robe années 70 justement, qui était longue, avec des manches longues, échancrées sur le devant, et elle était en velours, elle était orange, blanche et marron, avec des motifs hyper psychédéliques, et j'ai mis du temps avant de la mettre en ligne, parce que je voulais, je rentrais pas dedans, mais je voulais juste l'admirer, et j'ai fini par la vendre en ligne, et voilà.
Donc c'est quand même assez rare de trouver des pièces des années 70. Qu'est-ce que tu trouves le plus?
Ce que je trouve le plus, c'est plutôt les petits chemisiers col pas la tarte.
Ça, c'est années 80.
Ouais, années 80 aussi, les petites blouses à fleurs, ça se trouve facilement en vrai. Donc voilà.
Alors on va parler quand même du cœur du sujet, le véganisme, parce que c'est très important dans tes ventes. C'est très restreint quand même. C'est difficile de trouver des pièces véganes. Tu vas nous expliquer ce que c'est qu'une pièce végane. Bon, la nourriture végane, on sait, mais les pièces véganes, on ne sait pas forcément. Dis-nous ce que tu vends et ce que tu ne vends pas surtout.
C'est ça. Alors, une pièce végane, c'est un vêtement donc qui ne contient aucune matière d'origine animale. Donc on va exclure tout ce qui est cuir, peau, fourrure, soie, laine, parce qu'il y en a beaucoup.
Soie?
Et
oui. Mais pourquoi la soie?
Eh ben la soie, en fait, pour fabriquer de la soie, il faut
des insectes, non?
Des insectes, exactement. Et en fait, c'est des vers à soie et on les fait bouillir et voilà. Donc du coup, pas de soie.
Donc, et l'angora, tu peux nous rappeler ce que c'est l'angora?
Ça peut être du coup des lapins et donc à qui on arrache, ouais.
Vivant les poils, hein.
Ouais, je préfère pas détailler.
Mais... Oui. Mais alors il y a de l'angora qui vient d'autres. Ben non, je pense pas. Hein, l'angora, c'est.
Peut-être de chèvres aussi, il faudrait vérifier.
Ah, oui, effectivement. Donc pas de laine non plus?
Non. Pas de laine non plus.
Pourtant le mouton, on le tond, c'est pas non plus. Il y a pire, hein. Il y a pire.
Oui, on va dire que ça c'est dans l'inconscient, on va dire que on tond le mouton sans lui faire de mal, etc. Mais en fait, il existe encore beaucoup de des élevages en fait industriels. Où on fait pas du tout attention à la manière dont on tond les moutons. Parfois, on les blesse en fait. L'élevage, c'est voilà, on les soigne pas. Ils ont des infections. Après, l'élevage, c'est aussi quelque chose qui est pas du tout éco-responsable.
L'élevage intensif, ça, c'est pas forcément la tonte. D'ailleurs, on peut aussi, ils sont mal nourris, ils ont pas de pré, etc. Donc c'est de l'intensif, quoi. Je pensais pas que c'était pareil pour la laine de mouton. Moi, je pensais que c'était des petits, tu vois des.
Après, tout dépend des marques. Hein. Il y a des marques qui se développent, qui sont, on va dire, plus éthiques, qui font attention plus à la provenance des vêtements, mais bon, c'est pas encore la majorité des cas, malheureusement.
Donc, tu ne vends pas dans les bijoux non plus, tu vas pas vendre d'ivoire, évidemment.
Ouais, exactement.
Ni de fourrure, hein. C'est vraiment le top du top. Ça doit pas être facile à trouver. Hein.
Ça me demande juste en fait, de faire un petit peu plus attention au niveau des étiquettes et de bien regarder les matières, mais en vrai, j'arrive à me constituer un stock à peu près. D'une taille quand même assez importante. Et c'était vraiment, du coup, ce service, on va dire que c'est juste comme un service en plus où je regarde plus les étiquettes et je fais plus attention à la composition pour les personnes justement qui ne veulent pas porter de matière animale.
Est-ce que tes clientes te posent des questions sur, donc sur ta mode végane ou alors sur ton mode de vie aussi? Qu'est-ce qu'elles te posent comme questions aussi?
Alors, en effet, j'ai pas mal de questions, soit de clientes, soit de consoeurs ou de gens qui passent juste sur le stand. Donc, ça va être surtout, qu'est-ce qu'un vêtement vegan? Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui me posent la question. Après, pourquoi? Donc, là, j'explique que j'ai une conviction pour la défense de l'animal, du coup.
Et te posent des questions, mais c'est quand même c'est difficile de trouver... parce que t'as des gens, t'as des filles qui ne vendent pas de fourrure, et c'est pas pour ça qu'elles sont véganes. Tout de suite, c'est eux qui te posent des questions ou c'est toi? Ou alors c'est peut-être parce qu'ils ont regardé ton site?
Eh ben, je sais pas. Après, je pense que c'est assez spontané. C'est vrai qu'après, il y a des personnes aussi qui vendent pas forcément de fourrure, mais il existe beaucoup de matières en fait dont on soupçonne pas la.
Et t'as un retour vraiment des clientes qui trouvent ça bien?
De plus en plus, ouais. Alors, il y a des personnes qui sont un petit peu plus difficiles à convaincre et qui vont me répondre, en fait, des arguments par rapport à l'écologie, au fait que il y a certaines matières qui sont véganes, mais qui ne sont pas forcément écologiques. Et donc, du coup, comme je disais, mon positionnement, c'est par rapport à l'animal. Et dans tous les cas, il y a beaucoup de matières qu'on appelle nobles, mais au final, par exemple, le cuir, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps pour expliquer ça, et le cuir animal, c'est pas si écologique que ça, en vrai.
Non, évidemment.
Et sinon.
Pourquoi tu as choisi tu as choisi de t'associer donc avec une association de défense des animaux. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, pour moi, c'est vraiment ce qui donne du sens à mon concept, donc vintage vegan. Et on va dire que comme je n'ai pas créé une marque en alternative à des choses qui seraient produites aujourd'hui, je voulais quand même que ça ait un impact positif et concret sur la vie de certains animaux maintenant. Et c'était pour moi une manière de contribuer.
De continuer sur cette éthique personnelle. Pourquoi tu as choisi l'association Groingroing, je rappelle, je ne l'ai pas dit mais je le dis, tu as choisi de faire un partenariat avec une association qui s'appelle Groingroing pour la défense des cochons, des porcs, voilà, peut-être pas des sangliers mais en tout cas des cochons. Et pourquoi les cochons?
Alors, donc effectivement, le refuge Groingroing, c'est un refuge qui existe depuis 2005 et qui se trouve dans la Sarthe. Et ils ont commencé par sauver des cochons, donc soit d'élevage intensif, soit d'élevage familial. Et maintenant, c'est ouvert aussi à beaucoup d'autres espèces. Donc, ils ont aussi, ils ont aussi donc des poules, des ânes, des chevaux, chiens, chats.
C'est toi qui t'ont démarché?
Non, pas du tout. C'est moi qui suis allée vers eux. Et
pourquoi les cochons alors? Je sais pas, les chèvres, les chevaux.
C'était pas tant pour les cochons en soi, on va dire, mais cette association, du coup, je les avais rencontrés en fait un événement. Ils avaient un stand et donc j'avais pas mal discuté avec un de leurs bénévoles. Et j'avais trouvé ça, voilà, ça m'avait touché parce qu'au début, je m'étais renseignée pour être bénévole et après, ils nous avaient un peu expliqué que c'était assez physique, tout ça, qu'il fallait être vraiment costaud physiquement et motivé, quoi. Et donc moi après j'ai essayé de réfléchir à une autre manière de les aider à mon niveau. Et du coup ça m'est...
C'est une super idée, je trouve. Comment ça fonctionne justement? C'est uniquement sur internet là, hein, pas dans les pop-up stores?
Alors c'est avec toutes les ventes en fait, toutes les ventes donc en ligne et en pop-up. À la fin du mois en fait je vais reverser une somme à un animal du refuge.
Ah, tu vas parrainer en fait un refuge?
C'est ça en fait, exactement. Donc Bertie marraine un animal différent chaque mois. Et il y aura un petit pourcentage du coup sur mon chiffre à la fin du mois.
À chaque vente tu fais ça, mais c'est très généreux hein, parce que t'as beaucoup de filles, elles font rien. Hein. Moi, je trouve que c'est bien de faire du vintage, mais il faut qu'il y ait un sens aussi, tu vois, uniquement économique, bon, c'est bien, c'est joli, c'est tendance, tout ça, mais il faut que ça aille un peu plus loin et c'est pour ça que je voulais t'interviewer, faire un sujet sur toi. Est-ce que tu as visité l'association?
Oui, exactement. J'ai eu la chance d'y aller il y a tout juste une semaine, parce qu'en fait, ils font des ce qu'ils appellent des Happy Days, c'est des journées portes ouvertes, un samedi par mois. Donc si ça vous intéresse, il faut s'inscrire très en avance, parce que c'est très demandé. Et donc en fait, samedi dernier, j'ai eu la chance de visiter tout le refuge, de rencontrer tous les animaux, de connaître leur histoire et de rencontrer du coup des animaux en fait qui étaient.
Ouais. Ce qui leur est arrivé, leur histoire et tout. Et t'as pu aller voir ton petit parrainé.
C'est ça. Je peux aller voir le filleul de ce mois-ci.
Et comment il s'appelle?
C'est Barbidule.
Barbibule ou Barbie?
Ouais.
Barbibule. Allez, on va dire Barbibule. C'est un cochon.
C'est un cochon, non, c'est ça.
Il vient d'où, tu sais?
Il vient du coup d'un... Je crois que c'était un des particuliers, en fait, soit qui avait adopté des cochons nains. En fait, il y en a beaucoup qui... On va dire à qui on ment sur le poids adulte du cochon nain. Il y a beaucoup de particuliers qui se font avoir et qui pensent que, par exemple, à l'âge adulte, ça va faire 30 kilos, mais en fait, ça fait 70 kilos. Et du coup, ils sont élevés dans des mauvaises conditions et un peu laissés à l'abandon parfois. Donc voilà.
Valentine, rappelle-nous depuis quand tu es végane?
Végane, ça fait pas tant que ça, ça fait 3 ans. Avant ça, j'étais végétarienne. Et
voilà, donc tu as commencé par le végétarisme, après tu es devenue végétalienne. Et tu l'as fait petit à petit ou c'est devenu tout d'un coup?
Non, ça s'est fait petit à petit. En fait, moi, c'est un de mes frères qui m'a sensibilisée à la cause animale, puisqu'il a fait des études dans ce domaine. Et en fait, après, on a adopté un premier chat à la maison. Et ensuite, en fait, au fil des discussions avec lui, de choses comme ça, j'ai commencé à me poser des questions. Et en fait, au bout d'un moment, pour moi, c'était une évidence. Ça devenait de plus en plus difficile de manger des animaux.
Mais t'as commencé tout d'un coup à aller terminer toute la viande, terminer, ou alors t'as commencé par le cheval ou le...
Ouais.
Ou le...
Si, en gros, au début, j'avais arrêté la viande rouge, après j'ai arrêté la viande blanche, après j'ai arrêté le poisson, et voilà.
Et maintenant, tu manges même pas de fromage, pas de lait, enfin voilà, c'est complètement végétalienne.
Ouais, il y a tout ce qu'il faut en alternative, donc voilà.
Est-ce que tu l'as fait, donc, pour une raison écologique, pour sauver la planète? Parce que c'est vrai que l'élevage de bœuf, de viande rouge, ça pollue énormément. Les cochons, hein, avec les dioxines, c'est pareil. Ou est-ce que tu l'as fait pour les animaux et pour la santé?
La raison principale, moi, c'était vraiment pour les animaux, ouais. Ouais, ouais. Après, il y a une... la raison écologique vient de toute façon assez logiquement, hein. C'est lié, donc, ouais. Ouais, ouais.
Et est-ce que tu as des projets pour terminer?
Alors là, j'ai plusieurs vintage markets avec The Gros Marché en avril et en mai. En mai et en juin. Et le 1er et 2 juillet, je participe en tant qu'exposante au Smile Festival.
C'est quoi?
En fait, c'est un festival vegan à la Villette. Voilà. Donc il y aura plein d'exposants, il y aura des restos, des marques vintage qui font du cosmétique, des choses comme ça.
Donc toi, tu vas avoir un stand Bertie Vintage Vegan. Et tu es peut-être même la seule à faire des...
Alors oui, c'était aussi partie de ça, en fait, à la base. Je partais de ce constat, c'est qu'il n'y a aucune autre boutique vintage qui a une sélection végane. Donc voilà.
Dernière question, toute dernière. Est-ce que tu vas aussi chiner dans des pays étrangers ou dans des villes loin lors de tes voyages, quand tu fais du tourisme?
Oui, ça m'arrive effectivement quand je pars en vacances de partir chiner un après-midi. Et, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir aussi les pièces vintage dans les pays européens.
Parce que j'ai vu sur ta page Instagram l'autre fois, et je vais conclure là-dessus, une très belle pièce. C'était une robe tyrolienne. Ah oui. Ou rouge, très 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 joli. Donc je sais pas où on imagine que tu as pu la trouver en Autriche.
Effectivement, c'est une robe autrichienne, donc une dirndl, mais je l'ai chinée en France, bizarrement. Donc voilà.
Bon, écoute, je t'en remercie bien, et puis on te souhaite une longue vie végane dans ta boutique.
Merci à toi.
Animaux et Nature s'achève et revient samedi 3 juin à 12h sur IDFM, la radio du bien-être. Je remercie mes 3 invités, Jessica et Yvan, pour Julia-Paris, J-U-2-L-Y-A, et Igo-Vintage, I-G-O, et leur organisation de vide dressing. Karine pour Fripe Paris et son agenda hebdomadaire d'événements de Fripe, vide-grenier, pop-up store et marché d'hiver. Valentine pour Bertie-Vintage Vegan. L'association Groingroing, le refuge qui est partenaire de Bertie Vintage Vegan, grâce aux dons qu'elle envoie aux animaux de ferme à chacune de ses ventes. Refuge-Groingroing. À la réalisation d'Animaux Nature, Francky, merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur les programmes d'IDFM, sur le net, et bien entendu dans ma bio, sur ma page Instagram, BeautyFunZaza, et sur ma page Facebook, Animaux et Nature sur IDFM, avec des photos et des vidéos bien sûr. Bisous les sauvages!
Partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.